Vous êtes toujours avec nous sur BAC FM pour votre émission locale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait appartenir au passé, mais qui reste malheureusement très actuel. L'homophobie, la transphobie, la biphobie, et plus largement, les discriminations contre les personnes LGBTQIA+. Le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Une date symbolique, puisqu'elle renvoie au 17 mai 1990, jour où l'Organisation Mondiale de la Santé a cessé de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Plus de 30 ans plus tard, la question n'est donc pas seulement de célébrer un progrès historique, elle est aussi de regarder ce qui résiste encore, les insultes, les violences, les discriminations, le rejet familial, le harcèlement scolaire, la haine en ligne ou simplement la peur d'être soi-même. Dans une société gangrénée par le patriarcat, la cause systématique de ces causes ne sont plus à interroger. En 2024, les services de la police et de la gendarmerie ont enregistré 4800 infractions anti-LGBT+ en France, dont 3100 crimes ou délits. Le recours au dépôt de plainte est extrêmement faible, environ 4% des victimes déclarent avoir porté plainte. Pour en parler, nous recevons Anna Zachman, membre de LGBTQIA+58. Bonjour Anna Zachman.
Bonjour.
Bienvenue sur BAC FM et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation.
Ma première question est systématiquement la même. Est-ce que vous pouvez un peu présenter LGBTQIA+58 pour les personnes qui ne connaîtraient pas et peut-être parler un peu de vos actus?
Oui, alors c'est une association qui est là surtout pour faire du soutien aux personnes LGBTQIA+ de la Nièvre parce qu'on remarque un certain isolement de la part des personnes concernées. Donc en fait, ça fait un peu plus d'un an maintenant que l'association existe, mais par contre, on avait un collectif qui a été constitué depuis plus longtemps. Donc là, on organise la 5e Pride de Nevers, donc qui aura lieu le 13 juin. Et sinon, l'association, donc on fait une fois par mois une permanence pour les personnes LGBT au pot commun, donc le 4e mercredi du mois, de 16h à 20h. Et donc, c'est vraiment un moment de convivialité, de soutien si besoin, d'écoute si besoin, et puis un moment aussi d'échange de personnes concernées sur les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Voilà. Donc ça c'est la base de l'association. Et puis après, effectivement, on a plusieurs actualités qui vont avoir lieu ces prochains mois, parce que effectivement c'est aussi le mois de juin et le mois des fiertés. Donc la prochaine permanence LGBT au pot commun, donc toujours, ça sera le 27 mai, et cette fois-ci on aura la réalisation de pancartes pour préparer la Pride, donc un moment convivial ensemble. On a le 30 mai un atelier drag avec Lady Archibald Mercury et la Satyre, qui finira par une soirée DJ avec le DJ Clem Clem. Et donc qui sera aussi un moment pour soutenir la Pride, pour essayer d'avoir un peu plus de fonds aussi pour pouvoir proposer la Pride. Et puis en lien aussi avec la Pride, on aura une expo toujours au pot commun sur les femmes à barbe, donc avec l'artiste photographe Marie Rodet, donc qui sera du 4 juin au 9 juillet, et avec une rencontre avec l'artiste le 24 juin aussi pendant la permanence, donc à 18h.
Tout à l'heure tu parlais de la Pride, vous en êtes à l'organisation?
Oui, là on finit l'organisation. c'est déjà bien bouclé. Là, il faut surtout qu'on fasse de la com. C'est ce qui va être le plus important, de distribuer des flyers, faire du collage. Sinon, la programmation elle est bouclée. Donc on a la marche, et évidemment avec un départ à 16h. Et on aura une soirée cette fois-ci au bar Le Conti, avec une soirée cabaret, donc avec plusieurs artistes qui vont venir. Donc Polymini, Aloé du Morvan, Fer Immortel, Lady Archibald Mercury qu'on a déjà cité, la Satyre, et puis le collectif PVCDB, Paillettes Velues et Crème de Boom, qui vont animer la fin de soirée, donc avec une boom queer. Et puis pendant la Pride, donc on aura la Batucada, les Névrosés qui vont venir animer la marche. Et puis à la fin de la Pride, un moment de stand avec des fanzines, un collectif de sérigraphie qui vont être là aussi avec des slogans en lien avec la thématique. Et puis des fanzines, les audacieuses qui seront là aussi pour vendre des livres en lien avec les thématiques LGBT. Enfin voilà, plusieurs partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Amnesty International évidemment, qui nous soutient et qui est là depuis le début de l'organisation de la Pride, depuis 5 ans. ARDIS, qui est une association qui s'occupe des personnes en demande, demandeurs d'asile, qui sont aussi LGBTQIA+, puisque effectivement dans certains pays, l'homosexualité, enfin les droits des personnes LGBT n'est pas au même stade qu'en France et peut amener à des peines de mort ou à des moments de l'emprisonnement, etc.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, il y a une personne qui s'occupe de suivre ces personnes.
Je reviens sur la Pride, c'est un détail qui peut être important et importante pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que cette marche, il y aura une partie en non-mixité ?
Non, on est ouvert à tout le monde, évidemment dans le respect des personnes LGBTQIA+. Les alliés sont évidemment plus que bienvenus, il faut que tout le monde s'empare du sujet et que ce soit collectif. Après par contre, voilà, les personnes qui... On a eu une année des personnes qui clairement sont là pour montrer une dissidence à la marche.
Vous avez un service d'ordre ou quelque chose qui est prévu
On a des personnes qui s'occupent effectivement de vérifier qu'il n'y a pas de, d'insultes, de personnes qui sont là pour créer du conflit et qui sont attentives à ça. Oui.
Le 17 mai était une journée contre l'homophobie, c'était dimanche dernier, la transphobie et la biphobie, c'est important. La peur de l'autre est encore monnaie courante. J'aimerais vous entendre, alors c'est une question un peu large, mais sur votre quotidien à la tête d'une telle association, en 2026, c'est quoi la photo des discriminations LGBT dans la Nièvre ?
Un compte-rendu de ce qui se passe dans la Nièvre.
Qu'est-ce qu'on
en
vous dit
de...
encore ? Est-ce que j'imagine encore monnaie courante ou pas ? Voilà.
Oui, bien sûr, c'est monnaie courante, malheureusement. Après, alors nous, je pense qu'on n'est pas identifié par tout le monde non plus dans la Nièvre, donc on n'a pas non plus les retours de toutes les personnes concernées. C'est toujours un peu délicat d'avoir une exhaustivité, enfin voilà. Mais en tout cas, on a quand même des personnes qui se confient à nous, évidemment, dont une personne qui est une femme trans et qui nous a confié avoir eu des insultes et même un message sur son portable personnel, alors qu'elle ne sait pas qui l'a menacée, mais en tout cas, donc l'accaparation de son numéro personnel et un message vocal qui la menace. On a eu des agressions pendant une soirée LGBT, mais je pense qu'on en avait déjà parlé. Alors, c'était pas à Nevers, mais dans le Morvan, mais des personnes dans une soirée clairement identifiée LGBT, il y a des personnes qui se sont fait agresser physiquement. Donc oui, les agressions, les menaces, ça existe. Et puis après, évidemment, ce qui est le plus monnaie courante, c'est les insultes. Notamment, je pense au milieu scolaire, qui est quand même un milieu où c'est très fréquent. Le rejet de la famille, évidemment, ça c'est quelque chose qui est encore très très courant et qui renforce l'isolement des personnes concernées. Et puis les insultes ou la haine en ligne, ça c'est vraiment très fort. Il suffit de voir aussi les commentaires qui peuvent y avoir sur le journal du centre quand il y a un article qui paraît sur le sujet. Donc ça peut être des insultes générales ou ciblées à des personnes, mais en tout cas c'est très fréquent et très présent sur les réseaux sociaux.
Les chiffres nationaux montrent que très peu de victimes portent plainte. Sur le terrain, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que toi tu as eu des retours de l'aide juridique semble compliquée ? Peut-être qu'on ne se sent pas entendu sur une autre cause, hein, celle de la violence faite aux femmes. On sait que les policiers sont très peu formés à entendre les plaintes de femmes. Donc est-ce qu'il y a des points là-dessus ?
Oui, tout à fait. Il y a toujours une peur effectivement, de ne pas être écouté, de peut-être potentiellement avoir encore plus d'homophobie ou de transphobie de la part des personnes qui sont de la police, de la gendarmerie. Donc oui, ça rejoint effectivement les questions liées aux violences sexistes. Hein. C'est vrai que comme c'est des problèmes qui sont de façon systémique et qui sont sociétaux, effectivement, on les retrouve aussi dans les institutions publiques. Je parlais de l'école, mais c'est évidemment le cas dans la police. Donc oui, ça peut freiner beaucoup de gens. Et puis après, les agressions, il y en a aussi qui sont dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre familial. Donc ça, ça peut concerner aussi les violences faites aux femmes. Mais c'est toujours plus dur de porter plainte contre des gens de notre cercle proche.
Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'école. Bac FM, pour les gens qui nous écoutent, est située entre trois lycées, Raoul Folreau, Jules Renard et Jean Rostand. Est-ce que ouais, il y aurait des conseils, des tips pour les personnes LGBT+, au milieu scolaire? On sait que quand on a 15, 16, 17 ans, l'âge où on se cherche, alors déjà quand on est cisgenre, c'est peut-être pas facile de se construire à l'adolescence, mais encore plus quand on est une personne LGBT, en tout cas au vu de la société actuelle. Est-ce que ouais, on peut aussi s'adresser à ton association dans ce cas-là?
Oui, bien sûr, on peut nous envoyer des mails, on peut venir aux permanences, évidemment. C'est des moments qui sont faits pour ça, hein, pour justement échanger, pouvoir se sentir moins seul, parce que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, des échanges de parcours, des échanges sur les ressentis des personnes, sur comment on a vécu les différentes choses. Il y a des personnes qui ont des âges très différents, donc c'est aussi... Voilà, des personnes qui ont fait leur coming out très jeune, d'autres qui ne l'ont toujours pas fait, qui sont en cours de parcours de transition, par exemple, voilà, à des âges très différents. Donc, c'est riche aussi de pouvoir échanger sur ça. Donc, oui, bien sûr, tout à fait, ils peuvent, les personnes, les lycéens, lycéennes, peuvent venir aux permanences, ou si c'est trop... intimidant, nous écrire évidemment, soit sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et sur Instagram, soit par mail.
Il y a encore beaucoup de violences qui circulent. Fin avril, le Rassemblement National représenté par Jordan Bardella a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion en Europe. Mmh. Cette soi-disant thérapie qui n'a de thérapie que le nom, que l'ONU, l'Organisation Nationale des Nations Unies, pardon, décrit comme de la torture. Est-ce que, à votre sens, l'extrême droite est une des plus grandes menaces principales ?
Évidemment. Oui, bien sûr. On le répète depuis plusieurs années maintenant, et évidemment, comme ça ne cesse de monter, l'extrême droite, le masculinisme, enfin toutes ces...
Tout
est lié, évidemment. Mais oui, bien sûr, l'extrême droite n'a jamais été un soutien aux personnes LGBT. Ça a toujours... il suffit de regarder les votes, hein, comme celui que tu viens de noter de Jordan Bardella, mais depuis des années, à la fois à l'Union européenne, mais à la fois dans les villes concernées qui sont déjà sous l'extrême droite, ou voire plus largement dans les pays qui sont gouvernés par l'extrême droite.
La Hongrie, par exemple, qui avait interdit la Pride.
Exactement.
Passé, ouais.
Donc effectivement, l'extrême droite ne fait que reculer abandonner certains droits, reculer sur les droits des personnes LGBT, et évidemment avec une conception de ce que c'est que la masculinité, de ce que c'est que la féminité, qui est complètement à l'encontre du féminisme et des droits LGBT.
On dresse un tableau un peu sombre depuis tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle peut-être des solutions. Alors, évidemment, on ne va pas refaire le monde, hein, ici dans cette interview, mais ça serait quoi ? Est-ce qu'il faudrait plus d'éducation ? On dit souvent, éduquer vos fils. Est-ce que c'est un manque d'éducation ? Est-ce que c'est un système qui nécessiterait de plus grandes transformations dans son fond ? Comment tu vois les choses ?
Oui, bien sûr, l'éducation, c'est toujours un point très important. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à faire intervenir des associations dans les collèges, dans les lycées. L'éducation à la vie affective et sexuelle, elle est ultra importante. Il faut la mettre en place, il faut la mettre bien en place, et puis continuer à soutenir les associations. Alors, parce qu'effectivement, on peut pas changer, enfin voilà, c'est difficile de changer tout le système, et surtout si les gouvernements font reculer certains droits, en tant que citoyen, citoyenne, il faut pas hésiter à s'investir dans des associations, à avoir aussi un contre-pouvoir qui est important. Si on n'a pas le temps de s'investir, à ne pas hésiter à soutenir financièrement, si on a la possibilité, les associations, quelles que soient les luttes, hein, racisme, homophobie, transphobie, voilà, il y a plein d'associations sur le territoire national ou localement qu'on peut soutenir. Et puis après, effectivement, on dresse un portrait un peu noir. Je crois que la polarisation entre les jeunes hommes et les jeunes femmes se grandit aussi. Donc effectivement, il y a une montée du masculinisme. Mais de l'autre côté, il y a quand même de plus en plus de jeunes femmes qui sont de plus en plus
engagées.
Donc effectivement, hein, il n'y a pas que ça. La problématique, c'est surtout l'importance de la frappe de l'extrême droite, qui a aussi des moyens financiers extrêmement forts, et notamment avec des médias et des rachats de médias.
On en parle tous les jours.
Bien sûr. D'où l'importance encore plus de consolider les réseaux locaux et alternatifs et militants, et d'aider le plus possible en tant que bénévole, soutien financier, etc.
Vous sentez soutenu en tant qu'asso via les partenaires locaux, les mairies, les départements, les régions?
Et bien là, on a fait des demandes de subvention, donc on va voir ce que ça donne. Je ne saurais pas répondre pour l'instant.
On reviendra.
Après, comme c'est notre première année d'association, avant on était un collectif, donc on n'avait pas fait de demande de subvention officielle. Donc je ne peux pas répondre pour l'instant. Après, clairement, on pourrait avoir plus de bénévoles, ça. Je pense que c'est un peu la problématique pour toutes les associations, hein, mais oui, on pourrait avoir plus de bénévoles, ça serait plus...
Vous êtes combien actuellement, sans indiscrétion?
Comme actif, vraiment, on est, je pense, une dizaine. Vraiment toute l'année. Après, évidemment, sur les moments comme la Pride, on arrive à avoir plus de monde qui nous aide sur les événements ponctuels. Mais voilà, les personnes qui viennent vraiment à toutes les réunions, qui sont force de propositions et de travail, on n'est pas si nombreux.
J'ai une dernière question. Comment on fait pour vous contacter, justement, si on se dit, bah tiens, j'ai envie de les aider, cette belle association?
Eh bien, donc on peut nous joindre sur Instagram, donc sur le compte lgbtqia.58, sur Facebook association lgbtqia+58, et par mail donc lgbtqia58@riseup, donc riseup.net.
Merci beaucoup, Anna Zachman, d'avoir été avec nous sur BKFM.
Merci.
Si vous êtes concerné et.e, ou si vous voulez soutenir, vous pouvez vous rapprocher donc de LGBTQIA+58, notamment lors de ses permanences et autres événements à Nevers. C'était CDLPC dans les parages sur BKFM, votre radio jeune pop-rock et métal. Restez avec nous sur votre radio 100% jeune. Bon après-midi sur BKFM.